Et donc vous êtes toujours sur FPP, Fréquence Paris Pluriel, 106.3, toujours dans une émission de Zoom Écologie de l'équipe Ça Démange. Et aujourd'hui, on parle du courant anti-industriel. Et après, dans une première partie, présenté le courant anti-industriel et ce qu'on pouvait en retirer. Dans une deuxième partie, avoir critiqué ces tendances à l'essentialisation du corps naturel et ses conséquences catastrophique à la fois dans sa dimension masculiniste et aussi dans sa dimension négationniste du Covid et un petit peu, on peut le dire, hein, social-darwiniste, eugéniste. Là, on va parler, c'est peut-être à un niveau un petit peu plus théorique, mais de la fétichisation de la technique. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc dans l'idée de la fétichisation, il y a l'idée en fait, de considérer quelque chose qui est pris dans les rapports sociaux, c'est-à-dire la technique, en fait, elle n'existe pas en dehors des rapports sociaux. Elle est produite par des êtres humains qui s'inscrivent dans une société qui est capitaliste, patriarcale, raciste, etc. etc. Et donc on ne peut pas penser, selon nous, la technique comme quelque chose qui serait justement un fétiche, qui serait quelque chose qui serait en dehors de notre pouvoir et qui simplement agirait un petit peu comme une sorte de système autonome, comme une méga-machine, là je reprends évidemment sciemment certains de leurs concepts, comme un système technicien dont parle par exemple Jacques Ellul, un de leurs pères fondateurs. Et dans l'idée de Ellul, et qui à mon avis est un petit peu la matrice quand même de la pensée de la technique du courant anti-industriel, la technique est presque une sorte de domaine qui à un moment dans l'histoire, on ne sait pas trop quand, mais c'est extraite finalement des rapports sociaux et c'est autonomisé. Et finalement, depuis lors, la société moderne serait caractérisée par le fait qu'il y aurait une sorte de système de technique, voilà, qui serait parfaitement cohérent et qui avancerait mécaniquement sans que les êtres humains puissent déterminer, que ce soit politiquement, socialement à travers des luttes ou des choix d'investissement, etc. Mais que simplement, voilà, il y a une sorte de logique autonome de la technique qui fait que, et c'est comme ça que Ellul le pense, que c'est simple, c'est toujours the one best way, donc c'est l'efficacité qui prime et qui fait que automatiquement la technique va avancer vers ce qui est de plus en plus efficace. Et ce qui fait que lui, dans La technique ou l'enjeu du siècle, qui est un peu son grand ouvrage fondateur écrit dans les années 50, lui considère que, en fait, la technique s'est autonomisée du capitalisme. Et on ne peut plus penser les développements de la société moderne, de la société technologique, en termes de capitalisme, comme par exemple le ferait Marx, mais il faut la penser en termes de développement du système technicien. Et finalement, cette analyse aboutit chez ses héritiers, donc du courant anti-industriel dont on parle aujourd'hui, à penser finalement la technique comme autonome des autres rapports sociaux. C'est-à-dire plutôt que de penser finalement telle et telle technologie comme étant le produit de la logique sociale capitaliste ou aussi de la logique sociale patriarcale pour certaines technologies, plutôt que de penser donc les techniques comme le produit des rapports sociaux et à leur tour qui impacte ces rapports sociaux, bien sûr, ce qu'on ne nie pas, il la pense comme étant presque finalement la domination en elle-même. Comme s'il y avait d'un côté la société, d'autre part la technologie qui dominait la société, avec entre deux, d'une certaine manière, les technocrates qui utiliseraient la technique pour asseoir leur domination. Et donc évidemment, c'est une lecture de la technique qui nous semble problématique parce qu'à la fois, elle ne pointe pas l'ambivalence de la technologie, c'est-à-dire le fait qu'il peut y avoir certaines technologies qui peuvent être réappropriées, être détournées, être réinventées d'une manière émancipatrice. D'autre part, elle ne pense pas le fait que la logique sociale aujourd'hui dans notre société, c'est pas la technique toute seule qui se développe, c'est plutôt le capitalisme ou d'autres systèmes d'oppression qui lui sont liés.
Oui, tout à fait. Cette notion de méga machine autonome qui flotte un peu comme ça au-dessus de nous, c'est vrai que ça. Y a un parallèle qui m'a marqué finalement. Ça me fait un peu penser aux critiques qu'on peut faire de la collapsologie, c'est-à-dire le désastre permanent qui est toujours là, qui fait que s'approfondir. Ça nivelle un peu tout, quoi. Ça écrase un peu tout. Et la méga machine autonome, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que finalement, il y a une énumération un peu sans fin des techniques et des ravages associés. Donc chaque nouvelle technique est l'occasion un peu de sortir un nouveau bouquin sur le ravage de cette nouvelle technique. Et on ne voit plus vraiment la spécificité propre ou ce que ça sert comme intérêt. Je ne sais pas quel est le gain de productivité qui est associé à cette technique, quel est le nouveau marché qui est ouvert, comment ça a été produit, etc. Ça manque un peu de relief finalement et de profondeur par rapport à ça. Et surtout, je trouve que c'est un discours qui ouvre peu de prises finalement. C'est-à-dire si tout n'est que ravage, si tout n'est que catastrophe et que de toute façon c'est autonome, on a un peu du mal à voir comment ça va s'arrêter. Et le débouché souvent tel qu'il arrive finalement, c'est la promotion de systèmes ultra-localistes. C'est-à-dire que la seule solution, c'est de s'extraire complètement de la technique un peu par soi-même, on va aller faire une ferme et traire trois chèvres et puis se limiter aux interactions minimales qu'on puisse avoir, quoi. Donc en fait, le débouché logique, c'est une sorte de primitivisme. Bon, il y a d'autres mouvements qui arrivent à ça aussi, qui passent, je pense, à côté de certaines questions. Alors on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais les notions de planification écologique, d'interdépendance, qui ont aussi plein d'autres, enfin, qui peuvent être problématiques, mais c'est des choses, je pense, dont on parlera dans d'autres émissions, mais en tout cas qui sont des nœuds de contradiction qui nous semblent intéressantes. Mais voilà, ça. Le débouché est assez... ça me laisse souvent perplexe. Et puis, j'ai l'impression, en ayant relu un peu, avec un œil neuf, cette littérature, que le discours anti-tech, c'est un peu à progrès à l'envers. C'est-à-dire que là où le progressisme, c'est un progrès linéaire, permanent, la vision de l'histoire de l'anti-tech, c'est la même histoire linéaire, mais qui n'est que ravage permanent et approfondissement. J'ai tendance à préférer des visions qui sont moins linéaires, parce qu'elles viennent apporter plus de complexité, plus de manières de voir. L'idée que c'est aussi les choses sont pas linéaires, c'est la concrétisation, l'accumulation à un moment de certaines une invention, des personnes qui voient un intérêt, l'intérêt capitaliste propre, etc., qui fait qu'une technologie voit le jour. L'éolienne, c'est pas la suite logique du moulin à vent. Enfin, il y a plein de choses à dire comme ça, quoi. Donc j'ai l'impression que ça passe un peu à côté de ça. Et donc dans cette vision de l'histoire, finalement, il y a une espèce d'âge d'or qui n'est pas vraiment situé. On sait pas à quoi correspond l'âge d'or des anti-industriels avant le capitalisme. Quel est l'état technique idéal? Est-ce que c'est l'état féodal? Est-ce que c'est un autre état? Il y a des primitivistes qui vont même remonter avant la sédentarisation, puisque c'est les premières cités-états, etc. Donc, où est l'âge d'or? Comment il est défini? Est-ce que c'est comment il est situé lui-même dans les rapports sociaux de l'époque? Ça c'est rarement défini. Après, il y a les ludites, donc les casseurs de machines, qui sont les ancêtres souvent que se donnent les anti-industriels. Et puis il y a une espèce de no man's land où pourtant il y a eu des luttes sociales aussi longtemps que depuis que le capitalisme est là, quoi, auquel le mouvement anti-industriel se rattache peu, alors qu'en fait dans la lutte pour l'organisation du temps de travail, il y a beaucoup d'affaires de technique, de ce que peut produire la technique aussi sur le temps de travail, etc., qui en fait n'est pas du tout... il y a un fil qui est rompu. Et donc on a les ludites, la big science après la Seconde Guerre mondiale, et donc là notamment les textes de Élu Charbonneau qui sont avant et après la Seconde Guerre mondiale, et puis maintenant, quoi. Et tout ça, c'est une accumulation de ravages. Et donc on a un peu ce truc historique, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on ne sait pas non plus comment ça s'articule par rapport à une perspective révolutionnaire ou de dépassement, que ce soit, on va dire, du capitalisme, mais éventuellement de la technique. Comment est-ce qu'on dépasse ça? On ne sait pas vraiment, finalement, où ça va. Et un autre point peut-être aussi qu'on a évoqué lorsqu'on a préparé cette émission, c'est... Alors, il y a des bouquins qui parlent de ça maintenant, mais... Ça aussi, tout ce dont on va hériter du capitalisme, qu'on le veuille ou non, les gens malades, le système nucléaire, plein de problèmes comme ça, où on ne sait pas trop non plus comment on est censé résoudre ça. Et j'ai envie de dire, la position anti-tech me rend inquiet, puisque, on peut revenir sur le Covid, mais la manière dont ce qu'ils ont dit sur la gestion des gens déjà malades, etc., ne me rassure pas sur l'avenir qu'ils réservent à la plupart des personnes de l'humanité. Donc c'est un peu toutes ces questions-là historiques qui se posent. Qu'avait-il avant? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et puis, où va-t-on?
Oui, et je pense qu'effectivement, Comme tu dis, il y a une vision de l'histoire effectivement qui mythifie une sorte de société pré-technologique où les êtres humains auraient soi-disant maîtrisé de bout en bout toute la fabrication des objets, leur utilisation, ce qui est d'une part contestable puisqu'on sait qu'il y a des dépendances techniques entre sociétés depuis bien longtemps, que les êtres humains ne faisaient pas tout leurs objets techniques de A à Z, ça fait quand même plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années, et se priver de cette interdépendance technique au nom d'une sorte d'autonomie complètement fantasmée, c'est problématique, et c'est pour ça que tu parlais d'interdépendance, de planification écologique. Bien sûr qu'aujourd'hui, penser qu'on voudrait simplement utiliser des objets techniques ou des systèmes techniques qui seraient produits intégralement localement à partir de nos petites connaissances d'individus ou à la limite à l'échelle d'une famille ou d'une toute petite communauté, enfin au nom de quoi est-ce qu'on ferait ça ? Ça veut dire quoi ? C'est qu'on veut des communautés autarciques il me semble que par rapport à une idée disons plus fédérative, plus révolutionnaire aussi et moins, on va dire, comme tu disais, ultra-localiste de l'humanité, de l'émancipation sociale, c'est quelque chose qui est problématique. Et effectivement, cette autonomie fantasmée, je vois pas trop ce qu'elle va apporter à l'humanité, et je vois pas d'ailleurs qui en veut, à part une toute petite minorité d'anti-industriels. Et je pense que d'autre part, un autre problème, et ça c'est lié à leur vision de l'histoire, c'est qu'effectivement, on a l'impression que voilà, l'histoire du progrès technologique, c'est l'histoire presque de la décadence depuis un âge d'or, soi-disant, où les gens auraient su faire tout par leurs mains, ce qui fait l'impasse notamment sur le fait que, comme l'a montré l'anthropologue Paola Tabet, il y a toujours eu une appropriation de certaines techniques par les hommes, et on peut dire la même chose sur certains groupes dominants, c'est-à-dire que les techniques, avant la société capitaliste ou la société technologique, comme ils disent, c'était pas le monde merveilleux. C'était aussi un monde où il y avait des individus qui se monopolisaient certaines techniques, qui certes, ils savaient faire peut-être de A à Z, mais pour aussi construire des rapports de pouvoir. Donc le problème, entre guillemets, du rapport entre pouvoir et technique, il ne naît pas de la technologie. Et après, leur vision de l'histoire, disons à partir de la société technologique, il est problématique, comme tu dis, donc on a l'impression qu'il n'y a rien entre les ludites et les néoludites, ce qui est déjà une filiation assez contestable, puisqu'on n'est plus du tout dans les mêmes temporalités, les mêmes enjeux. Les ludites, c'était des gens qui se voyaient déclassés par la transformation du capitalisme industriel, et donc qui se révoltaient pas tellement parce qu'ils étaient contre la technique de manière générale, ou parce qu'ils avaient une critique de la technologie, mais simplement voilà, parce qu'ils ne voulaient pas être au chômage, ce qui était peut-être un petit peu plus concret. Et effectivement, en fait, c'est aussi quelque chose qui oublie le fait que, entre les ludites et aujourd'hui, il y a effectivement eu beaucoup de luttes qui ont cherché parfois à rejeter certaines technologies, parfois qui y sont parvenues, parfois qui n'y sont pas parvenues. Mais je pense que même si souvent les courants industriels mettent en avant les courants qui ont rejeté des technologies, à mon avis, il faut aussi s'intéresser à des courants qui ont cherché à modeler l'usage, le développement, l'extension, etc. de technologies. C'est-à-dire que dès le 19e ou 20e siècle, et on peut rattacher ça à l'histoire du mouvement écologiste, il y a eu des mouvements qui, parfois, ont cherché à rejeter radicalement certaines technologies, l'industrie chimique, etc., qui n'y sont pas parvenus, ou parfois que non, c'était pas le but, mais qui ont quand même amélioré, qui ont cherché à limiter l'impact environnemental, l'impact en termes de santé, sur les gens. Et je pense que rejeter en bloc tous ces mouvements et toutes ces luttes sociales, parce que, soi-disant, elles ne feraient pas une critique suffisamment « radicale » entre guillemets de la technologie, au nom, encore une fois, d'une sorte d'autonomie fantasmée, c'est évidemment quand même se priver aussi d'un grand répertoire d'actions. Aussi, c'est amputer un peu la mémoire des luttes écologistes. Et à mon avis, aujourd'hui, penser simplement la lutte, la critique entre guillemets anti-technologique par un rejet en bloc, ou alors les autres, ce seraient simplement des progressistes marxistes qui seraient encore dans le fantasme du développement des forces productives. Je pense qu'on peut trouver, dans une perspective révolutionnaire justement, une voie entre guillemets intermédiaire qui pense la technique d'une manière un petit peu plus fine et qui rend plus justice à certaines pensées et à certaines luttes passées.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette émission qui était animée par le collectif Ça Démange sur FPP. Le collectif Ça Démange revient le 10 novembre, si je ne dis pas de bêtises, a priori pour une émission consacré au dernier numéro de la revue Z sur les forêts et l'industrie forestière. Et dans les futurs programmes, on parlera aussi sans doute de planification écologique de villes. Et puis, on verra bien ensuite ce que l'avenir nous réserve. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à dans un mois.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Si vous voulez réécouter cette émission ou aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur la page de l'émission sur zoom-ecologie.net, sur sortirducapitalisme.fr ou sur spectremedia.org. Vous y trouverez notamment les liens de certains des textes que nous critiquons dans cette émission.